Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Thierry.
Oui. Oui, Max.
Salut Thierry.
Salut Max.
Comment ça va?
Ouais, plaisir de te voir ici.
Bah incroyable,
c'est bienvenue chez moi.
Bah ouais, c'est la première fois qu'on se rencontre.
C'est la première fois qu'on se rencontre.
Je t'ai vu dans les allées.
Je t'écoute, mais c'est la première fois qu'on se rencontre.
C'est beau ça. Ouais. Alors que moi j'ai grandi en te regardant.
Ça c'est sympa, t'as dû t'emmerder quand même. Hein, parce que c'était long.
Mais en fait, mon époque à moi c'était plus, t'étais déjà dans les tribunes, tu coachais. Ouais, je te croisais dans les allées, je me souviens, tu étais avec Mika Liodra. Quand j'étais vraiment petit, je commençais le tennis. Ouais.
Alors, j'ai jamais entraîné Mika Liodra, mais quand j'ai commencé, le premier c'était Paul-Henri Mathieu pendant longtemps.
Ah, oui, après, Polo, ouais, je confonds.
Mon fils pendant longtemps, et après d'autres joueurs comme Richard, Benoît, voilà.
Énorme. Et puis, souvenir aussi de commentaires à Wimbledon sur Richard, non ?
Ouais.
Qui gagne en 5-7, où tu t'enflammes un peu au 5ème.
Ouais. Un petit peu, ouais. Mais j'adorais commenter. En fait, c'était. Quand j'ai un peu moins coaché et qu'il y a Bin qui s'est créé en France et que j'ai eu la possibilité de travailler avec eux, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il y avait une telle équipe, c'était tellement génial et je me suis éclaté. Ouais.
Bon, donc là, ça fait un an et demi que tu es aux US.
Ouais.
Et je suis refait de te croiser ici parce que moi, c'est mon deuxième jour. Je suis là pour Edge, pour montrer comment une agence fait du scouting pour trouver des pépites. Et toi, est-ce que tu peux nous raconter ce choix d'être venu ici du coup?
Ouais. Bon, ça s'est fait tout simplement. C'était avant tout une volonté familiale de tout changer. Tu vois, et de venir vivre en Floride parce que c'était vraiment notre envie. Voilà, ma femme et moi, on venait souvent en vacances ici. On se disait, tiens, pourquoi pas un jour vivre ici. Après, c'est une question de timing, tu vois. Donc, à un moment donné, j'avais du temps devant moi. On a demandé notre green card parce que tu peux pas venir comme ça ici. On l'a obtenu, c'était en mars 2022. Donc, on a attendu que les enfants terminent l'année scolaire et on a bougé au mois de juillet. Donc voilà, et en fait, en venant ici, c'était. Au départ, c'était sans savoir ce que j'allais faire. C'était pas, je me disais, bon, en Floride, je trouverais dans le tennis parce qu'il y a quand même beaucoup d'académies. Et voilà. Et une fois que ça s'est su que j'avais obtenu la green card, j'ai eu quelques propositions, dont l'USTA. Et je m'entendais bien avec eux parce que quand je travaillais pour la Fédération française de tennis, sur les grands chelems, on se rencontrait. Tu en parlais du tennis, de l'évolution du tennis. Voilà, c'était Martin Blackman qui a un peu l'équivalent du DTN, en fait, ici aux États-Unis. Qui m'a contacté, on s'est vu, et après on s'est vu avec Cathy Rinaldi, que je connaissais très bien, qui est la responsable du haut niveau féminin emblématique aux États-Unis depuis très longtemps. Je m'entendais bien avec elle me voulait dans son équipe. Donc voilà, on a fait une visio, deux visios, trois visios, et puis ça, on s'est hyper bien entendu, et finalement j'ai accepté. Voilà.
Énorme. Attends, rapproche-toi un peu. Ouais. Pour nous redonner du contexte, redis-nous juste combien tu étais ATP, toi, à ton meilleur.
Alors, meilleur classement, ça a été 41.
Ouais.
Et mes deux faits d'armes, ça a été. Enfin, deux faits d'armes. Non, j'ai fait deux fois quart, une fois Roland Garros et une fois Wimbledon.
Je crois que tu avais une demande sur le côté. Mais...
Ouais, c'est un petit joueur. Alors, lui, c'est le frère de Tyra Grant, une des joueuses qu'on entraîne.
Ah, très bien. Rapproche-toi.
Ouais.
C'est quoi les conditions du coup? Alors déjà, tu faisais quoi à Paris avant de venir ici aux US?
Avant de venir, pendant un an, je m'étais occupé de Clara Burel.
Ouais.
Et avant, j'étais directeur du haut niveau à la Fédération française de tennis. Voilà.
Très bien. Hommes et femmes.
Hommes et femmes.
C'est quoi les missions d'un directeur de haut niveau à la Fédération?
Les missions d'un directeur de haut niveau, c'est constituer une équipe d'entraîneurs, trouver des joueurs, avoir des managers qui travaillent, constituer une équipe de managers qui travaillent avec moi.
Ouais.
Et puis surtout, je voulais pas être un directeur de haut niveau dans un bureau, quoi, tu vois. Donc je prenais des entraînements, j'étais sur le terrain, parce que dès que tu perds le terrain, dans ce milieu-là, ça va très vite et tu perds un peu de crédibilité. Donc, et puis j'étais sur les tournois. Et puis en parallèle de ça, quand Sébastien Grosjean a été nommé capitaine de Coupe Davis et Julien Beneteau en Billie Jean King Cup, il m'avait demandé d'être aussi le coach de ces deux équipes-là. Donc du coup, j'avais un suivi des vraiment très hauts joueurs de haut niveau, et puis on préparait l'avenir avec les plus jeunes. À l'époque, c'était Arthur Fils, Van Hache, Van Hache, qui ont Giovanni Mpeti, tu vois, on suivait tous ces joueurs-là, Diane Paris, Clara, dont je m'occupais déjà à la fédération d'elle. Donc voilà, c'est assez vaste, il faut, mais c'était très, très intéressant, ouais.
C'est quoi l'envers du décor aux US ? On sait que mentalement, ils ont peut-être une approche un peu différente. Toi qui le vis là depuis un an et demi, donne-nous un peu le ressenti.
Écoute, c'est une approche qui est forcément un peu différente. Ils s'entraînent beaucoup, ils n'ont pas peur de ça, ils sont très volontaires. Tu vois, nous à Orlando, il fait très chaud, donc on commence très tôt les entraînements. À 7h30, ils sont sur le terrain, donc ça veut dire qu'à 6h30, ils sont déjà à l'échauffement. Ça joue en gros 4h, 4h30 par jour et 2h de physique. Quoi. Voilà, ça c'est le quotidien, c'est classique.
C'est la même chose qu'en France.
Ouais, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qu'on essaie de... Ce que j'ai apporté, en fait, c'est un vrai échange, parce que moi, maintenant, j'ai rencontré une culture différente, tu vois, et c'est un véritable échange avec les entraîneurs, parce que moi, je prends beaucoup d'eux, ils prennent de moi. Je trouve qu'on est une équipe, on n'est pas beaucoup d'entraîneurs, tu sais. Si on regarde le secteur féminin où moi, là, je suis, c'est Cathy Renadi qui, elle, est la responsable. Et après, on est sur mon secteur à moi, c'est les plus jeunes, tu vois, entre 14 et 16 ans, et on a à peu près 8 à 10 filles. On est 3 entraîneurs, mais on travaille tout ensemble. Tu vois, on a nos joueuses un peu plus attitrées, mais on est capable d'entraîner les autres. Et puis on les entraîne aussi avec les plus jeunes 2010 qui arrivent, mais on les entraîne aussi avec les plus âgés. Quoi. Tu vois, on essaie d'avoir un lien constant entre toutes les filles. Et non, tu sais, à Orlando, en fait, la grosse chance, c'est qu'il y a 6 cours interbattus. Alors, à Orlando, c'est un paquebot, hein. Il y a 100 cours en fait. Ouais. Tu vois, nous, Player Development, c'est là où on entraîne les pros. On doit avoir une vingtaine de cours. Donc, tu as des cours en terre battue verte, tu vois, le hard throws que tu vois ici à l'Orange Bowl, et le dur. Mais on a 6 terre battue rouges, avec de la terre qui est venue d'Italie, tu vois, ils sont venus travailler cet été, elles étaient déjà existantes. Mais maintenant, on les forme et on ne les entraîne que sur terre battue rouge.
Raconte-nous une petite anecdote qui représente bien ce que tu vis ici. Un truc sur l'état d'esprit, la mentalité ou la manière de s'entraîner.
Alors, je vais te le faire de manière différente. J'ai mon fils qui joue au tennis. Tu vois, il a 10 ans, il adore ça, il est passionné, bon, voilà.
Et maintenant, il est bilingue.
Et maintenant, il est parfaitement bien, il parle mieux anglais que moi, ouais. Il parle comme un texan, donc ça, c'est horrible.
Il l'a chopé où, cet accent ?
Alors, lui, il fait Florida Virtual School, il fait l'école en ligne avec des profs. Ma fille, elle, qui est plus jeune, va à l'école. Et en parlant avec les jeunes, ou ma fille à l'école avec toutes les jeunes, voilà, ils ont pris l'accent. Enfin, ce sont des vrais ricains, quoi, tu vois. Non, mais je vais donner un exemple. Qui est plus personnel, pas au travers des joueurs et des joueuses que j'entraîne, parce qu'elles sont extrêmement volontaires. Nous, on est là plus pour leur apprendre à mieux jouer, tu vois, dans le sens où elles ont tous une grosse frappe de balle, ça sert très fort. Parfois, ils leur montrent un peu le petit jeu et comment mieux utiliser leurs coups, en fait, tu vois. Mais si je te dis la grosse différence ici, c'est que pas nouveau, mais nous on l'a vécu personnellement. Mon fils, par exemple, quand il jouait en France ou quand il allait à l'école, tu vois, les cheveux très longs, c'est Borg, tu vois, cheveux hyper longs. Donc à l'école, il n'était pas très aimé parce qu'il était différent. Du coup, il ne le vivait pas très bien, mais on n'avait pas à lui couper les cheveux parce que c'était son envie d'être comme ça, quoi, tu vois. Et quand il jouait au tennis, bah, il ne jouait pas trop mal et puis il crie à la frappe, il met beaucoup d'explosivité. Dans tous les tournois, c'est pas parce qu'il se tenait mal, il ne disait pas un mot, il se tient très bien. Mais il est très volontaire, il crie à la frappe et on lui disait bah, « arrête de crier à la frappe, quoi, s'il te plaît okay ». Et maintenant, tu t'encourages pas, s'il te plaît, parce que tu vois, ça nous dérange, nous. Toujours de la part des juges arbitres. On est arrivé ici, il joue son premier tournoi, mais dès comme mon fils, il y en avait 1000, parce qu'ils font tout ça. Ils s'encouragent tous, ils crient tous à la frappe, et on trouve ça génial. Donc en fait, quand on voit mon fils ici, on lui dit « écoute, votre fils est tellement beau avec ses cheveux blonds, et puis il joue tellement bien au tennis, c'est que des compliments ». Tu vois, donc tu as une manière de mettre en valeur l'athlète ou n'importe qui de manière constante, quoi. Et la différence, c'est l'école. Tu vois, ma fille, elle est à l'école, donc voilà, dans le bureau, elle était, quand on est parti, elle était en CE2 et on est arrivé ici. Mais le changement a été phénoménal, c'est le Club Med pour elle. Tu vois, dans le sens où elle avait déjà des devoirs tous les soirs, donc ici il n'y a jamais de devoirs. Il développe un côté artistique très fort, ou dans le sport, il y a beaucoup de sport à l'école. Elle nous montre des photos au début, on était choqués, quoi, tu vois, parce qu'on pensait qu'il n'y a pas de bureau. Il y a des chaises, des bureaux, des ordis, un grand tapis au milieu, une grande table, et la maîtresse et les enfants sont allongés sur un tapis en train de travailler, quoi, ou de chanter, tu vois. Donc c'est une vision qui est totalement différente et qui nous plaît énormément. Alors il y a d'autres côtés qui sont beaucoup moins bien que la France, hein, si je compare comme ça.
Un exemple ou deux ?
Bah, la bouffe c'est moins bien, t'as d'autres côtés, mais nous on vit en famille, là où on vit à Orlando, en plus à l'USTA, c'est extrêmement famille, c'est-à-dire que tous les entraîneurs ou les managers, tu vois, c'est open desk, donc le DTN, t'es avec lui, tu le vois tout le temps, tu parles avec lui, il t'invite à manger tous les soirs, pratiquement tous les soirs chez lui, tu vois, on se quitte jamais, quoi, et les enfants de chaque employé du STA, on a le droit de les faire venir, ils peuvent utiliser des bureaux, ils peuvent s'amuser, ils peuvent jouer au tennis, on s'occupe d'eux, donc tout le monde vit ensemble, quoi, tu vois, et honnêtement, j'adore ça, donc au départ, quand tu changes comme ça à 56 ans, tu dis, putain, je vais aux États-Unis, on est hyper content. Mais recommencer dans une grosse fédération, tu vois, ce que j'avais vécu en France, qui était génial, tu vois, j'ai adoré mon temps passé à la fédération. Je me suis dit, tiens, il faut remettre des connexions, tout ça, comment je vais le vivre. J'avais un petit... j'ai aucun doute sur mes croyances en tant qu'entraîneur, tu vois, ou ma confiance. Mais je dis, recommencer quelque chose, retravailler avec des entraîneurs plus jeunes, ça. Mais en fait, ils m'ont tellement bien accueilli qu'au bout d'une semaine, j'avais l'impression que j'avais toujours vécu là, quoi.
Magnifique. Ouais. Alors, t'as pas beaucoup de temps. Ça filme bien. T'as pas beaucoup de temps. On a presque terminé. Est-ce que t'avais participé, toi, à l'Orange Bowl quand t'étais jeune?
Ouais, une fois.
C'était quoi tes souvenirs?
C'était ici. Alors, je connaissais l'endroit parce qu'il y a des tournois de week-end et mon fils est venu jouer plusieurs fois ici. Ouais. Donc, je savais que c'était ici. Mes souvenirs étaient que j'adorais. C'était une de mes premières fois aux États-Unis. Donc, tu vois, là-bas, tu bouffes des burgers. Moi, manger un burger, alors qu'en France, on disait qu'il faut manger sainement, machin, tout ça. J'arrivais, je pouvais me taper mon burger parce qu'il n'y a pas de restaurant autour, donc on était obligé de manger. J'avais dû perdre, je crois, en quart de finale à l'époque. Mais voilà, c'était un peu le... Quand tu arrives ici, là, c'est la fin de tournoi, donc tu vois pas. Mais quand tu es en début de tournoi, tu as des joueuses partout, des coachs, des machins, ça grouille dans tous les sens. J'adore ça, tu vois, passer mon temps sur les plus jeunes aujourd'hui. Alors que ce qui est paradoxal, j'ai toujours entraîné des pros. Et là, je m'occupe vraiment des jeunes, quoi, tu vois. Mais c'est plus un boulot de formation, de développement, mais que j'adore aujourd'hui. Mais voilà, mon souvenir, c'était ça. Mais il est resté intact parce que j'avais déjà adoré cette première impression aux États-Unis où j'avais l'impression d'être totalement libre de tout. Et maintenant, je le vis pleinement tous les jours, quoi.
T'avais été approché par une agence à cette époque-là ou pas ?
Non. Alors, je vais t'expliquer, ça va être très simple. Quand je jouais au tennis, personne ne croyait en moi. Que ce soit à la fédération ou les gens qui me voyaient ou les agents, parce que j'avais un jeu. Et honnêtement, très chiant, quoi, tu vois, rébarbatif. Donc, on ne me voyait pas une perspective d'évolution pour aller sur le haut niveau, parce que pas vraiment de coup. En plus, j'avais une prise unique, tu vois, entre mon coup droit et mon revers, c'est la même prise, je ne changeais pas de prise. Donc, du coup, non, pas d'agence intéressée à moi. À 18 ans, enfin à 17 ans, la fédération à l'époque avait entré de m'entraîner parce qu'il dit on croit pas en toi, tu reprennes tes cahiers, tes bouquins, passe ton bac et tu feras un bon joueur de club, quoi, en gros. Ouais. Bon voilà, moi j'avais envie de jouer parce que j'étais passionné, j'ai commencé tard le tennis. J'ai commencé à 10 ans à taper ma première balle, donc si tu veux, mon classement est arrivé très tard aussi. Mon premier classement c'était à 14 ans, donc tu vois, j'ai pas un parcours un peu atypique, mais j'étais extrêmement sportif parce que je faisais plein de sport. Et j'adorais ça, donc je me suis accroché à mon rêve. Et je n'ai pas écouté, j'avais sûrement une mentalité déjà différente. Tu vois, j'adorais le tennis, je voulais y jouer. Et je me suis accroché à ça. Et finalement, à 19 ans, ma première année chez les pros, je suis rentré dans les 100. Et je suis resté quelques années. Donc après, j'ai signé avec des agents quand je suis rentré dans les 100 et que j'étais jeune.
Qui ça ?
J'avais signé avec IMG.
D'accord.
Et à l'époque, je crois que tu l'as interviewé, mon agent.
Reg.
Voilà, Reg. Et voilà, mais encore une fois, à l'époque, les agences, c'était une autre époque, parce que quand tu avais ton agent, c'était ton ami, ton confident, tu pouvais aller au resto, tu passais un bon moment, enfin, tu vois, c'était totalement différent. Je dis pas que les agences sont pas bons aujourd'hui, mais que tu viens à l'Orange Bowl, il y a presque autant d'agents que de joueurs, quoi, ouais. Tu vois.
Je pense que Edge t'aurait signé à l'époque quand tu avais fait car. Ils auraient senti le truc, la passion.
Peut-être.
Dernière question, les Frenchies ont la cote à l'étranger. J'imagine que ça se paye. Alors, il y a un truc un peu difficile en France de parler argent. Aux US, ils sont beaucoup plus décomplexés avec ça. Est-ce que tu es mille fois mieux payé qu'en France? Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
C'est pas que je sois mieux payé qu'en France. J'étais directeur du haut niveau, donc ça va. En fait, ici, ça va avec ton passif. ton expérience. Tu vois, ici, ils estiment que j'ai une expérience, mais comme je l'avais quand je suis arrivé entraîneur du niveau, ou quand j'étais entraîneur dans le privé aussi, je suis pas arrivé quand j'ai commencé à être entraîneur en disant, attends, tu vas me payer tant parce que sinon je viens pas. J'ai investi, j'ai pris des joueurs qui étaient, quand c'était Paul-Henri Mathieu, il était, je sais pas, 700e à l'ATP, donc il n'avait pas me payé ce que j'aurais voulu, souhaité. Donc forcément, je me faisais moins payer, puis après, j'avais un pourcentage, et quand il progressait, mon fiche changeait, mon pourcentage changeait, et je me suis toujours nourri de ça. En fait, ce n'est pas tant pour moi une question de salaire. À partir du moment où j'ai de quoi manger dans mon assiette, ça me va très bien, tu vois. Mais j'ai une passion qui est toujours intacte. Quand j'ai décidé d'entraîner, parce que quand tu es joueur, tu ne dis pas tu vas entraîner demain, quoi, tu vois. Et la première chose, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai dit je ne serai jamais entraîneur, quoi, tu vois. Je vais, circuit, c'est fini, je ne vais pas revoyager. Et en fait, c'est que 2 ans après où j'ai passé mon DE, mon BE à l'époque, mes DE aujourd'hui. Et pendant ma formation, je me dis, tiens, il m'explique des choses, mais moi, je vois les choses différemment, tu vois. Donc, ça m'a intrigué, ça m'a plu. Et après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas entraîneur, quoi, tu vois. Et mais quand je me suis décidé, c'est comme le tennis, en fait. Mais quand j'ai décidé d'être entraîneur, Je voulais pouvoir apporter un joueur, donc je prenais du temps, j'étais ambitieux, j'avais la même ambition qu'en tant que joueur de tennis pour moi-même, mais pour mon joueur. Et pour moi aussi quelque part, parce que je voulais faire des résultats. Pour moi, il était hors de question que je prenne un joueur et quand je le prends, qu'il ne progresse pas. Tu vois, moi, je pars du principe que si tu entraînes un joueur toute la journée, quel que soit son classement, peu importe, il doit progresser. Donc j'avais cette ambition qui était permanente et en fait, cette passion ne m'a jamais quitté parce qu'aujourd'hui, je suis... toujours aussi passionné. Et c'est pas parce que j'ai plus d'expérience, c'est juste ma passion et ma curiosité qui me fait continuer dans ce métier-là. Et parfois, je me dis, putain, j'aimerais bien avoir 30 ans pour faire encore 20 ans, quoi, tu vois. Donc, et le fait de recommencer, alors pour le coup, une nouvelle histoire ici aux États-Unis, dans ce totalement nouveau, j'ai l'impression d'être un gamin qui j'ai 25 ans, quoi, tu vois. Et je travaille avec des jeunes entraîneurs qui ont 30 ans, qui sont géniaux. Mais on fait les mêmes blagues, tu vois, on dit les mêmes conneries, mais on a la même motivation. Ils sont ultra motivés, ils sont ultra intéressants. Et je me sers d'eux comme eux se servent de moi. Et c'est le principe d'un entraîneur, en fait. Quand tu prends un joueur, tu espères que le joueur va apprendre de toi, mais toi, tu apprends aussi énormément du joueur. Donc, c'est une communication qui est très importante. Mais aujourd'hui, je m'accomplis totalement aujourd'hui. Et il n'y a pas un matin où je me dis, putain, fais chier, il faut que j'aille bosser, quoi. Tu vois, je suis ici, il fait beau. Bon, le temps s'y prête, mais ce n'est pas une question de temps, en fait. C'est juste une question d'envie, quoi.
Magnifique réponse, mais tu nous as pas dit que c'était beaucoup mieux payé. Coquin.
Je suis payé comme un entraîneur, avec mon expérience, doit se faire payer, mais à partir du moment où j'ai de quoi manger dans mon assiette, ça me va, quoi. Et que je peux donner à manger à ma famille, tout me va.
Magnifique. Merci d'avoir pris le temps. Bon tournoi. Ouais. Et j'adorerais faire un épisode complet avec toi. Et sache que ce moment-là qu'on est en train de vivre, pour moi, il est méga important parce que vraiment, j'ai grandi en te voyant. Pour moi, j'avais rencontré Loïc Courteau en Slovénie, à Portoro, sur un 250. Et pareil, on avait fait un truc comme ça. Et je lui avais dit, mais Loïc, toi, tu fais partie du patrimoine. Pour moi, toi, tu fais partie du patrimoine. Donc, c'est trop cool de partager ce moment.
Bon, c'est gentil. Mais Loïc, c'est niveau au-dessus quand même. Hein.
Non, mais les gars, vous êtes exactement pareil. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Trop cool. Merci,
je t'en prie,
Thierry.
Merci, c'était un plaisir.
À la prochaine.
Et allez, quand tu veux, pour une plus longue interview. J'aurai de bonnes anecdotes pour toi, je te le promets.
Allez, là. Ciao.